Chapitre 2. Wainwright, Warwick, Hollister, tapis sous le tablier du pont, écume de rage et d'indignation, son orgueil blessé. Lui, habituellement si enjôleur, est incapable de sourire à présent. Il ressent comme une brûlure au fer l'humiliation d'avoir été roulé par le rejeton d'un vulgaire tailleur et d'une simple couturière, par cet être médiocre avec sa pauvre Honda, ses vêtements bon marché et ses films insipides. Buckle mérite bien pire que le sort réservé à ceux qui figurent sur la liste Hamlet. Hollister se promet de le modifier en lui injectant un mécanisme de contrôle et de lui couper les testicules sans anesthésie afin de l'émasculer doublement. Hollister procédera lui-même à l'opération. Comme tous ceux qui ont dû se battre pour arriver là où ils en sont, Hollister s'octroie le droit d'expliquer aux autres que la réussite naît immanquablement dans la douleur. Lorsqu'il avait 10 ans, sa mère avait décidé de divorcer de son père et d'emmener son petit garçon. Orental Hollister, furieux à l'idée que sa femme l'empêche de forger son héritier à sa propre image, avait alors engagé une armée d'avocats et de détectives privés afin de se défendre. Le jeune Wainwright, muni d'un paquet de cigarettes dérobées à sa mère et d'un briquet récupéré dans le bureau de son père, avait passé des jours entiers à se décorer les bras avec des brûlures de cigarettes, qu'il désinfectait soigneusement avant de cacher son travail sous des chemises à manches longues. Puis il avait brûlé son sexe de petit garçon. À l'époque, son milliardaire de père vivait dans une immense propriété du Connecticut, entouré de 28 domestiques. La gouvernante, une veuve nommée Ripley, possédait des instincts sadiques, un qualificatif que Wainwright ne connaissait même pas. Il savait en revanche que Madame Ripley prenait le plus grand plaisir à ébouillanter des homards vivants en prévision du dîner, ravie de voir les créatures se débattre dans le faitout. Il avait également remarqué qu'elle maltraitait les chats du voisinage lorsqu'ils avaient le malheur de s'introduire dans la propriété, multipliait les misères aux petites filles du personnel et n'hésitait pas, feignant un geste d'affection, à le pincer lui-même au sang avec une satisfaction manifeste. À 10 ans déjà, Wainwright Hollister avait le don de décrypter le fonctionnement de ses semblables. Et il s'était adressé à Madame Ripley sans la moindre crainte qu'elle lui refuse son aide. Il lui avait demandé de le fouetter de façon à laisser dans son dos des cicatrices. En échange, il s'était engagé à vanter les mérites de la gouvernante auprès de son père, afin que ce dernier la récompense royalement. Enfin, il lui avait promis un versement de $100 000 le jour de ses 18 ans. Hollister la soupçonnait de moins s'intéresser à l'argent qu'à la perspective de le fouetter en toute impunité, doublée de la satisfaction d'anéantir la réputation de sa mère. Le régisseur du domaine paternel, la gouvernante, le majordome et sa femme, qui était l'assistante personnelle de mère, vivaient au fond de la propriété dans des pavillons individuels jouissant de charmants jardins. Le jour venu, retranché dans le cottage de Madame Ripley, le jeune Wainwright avait pu constater avec quel enthousiasme la gouvernante s'acharnait sur son dos, mais elle l'avait ensuite soigné avec dévotion. Les plaies refermées et les croûtes tombées, les brûlures de cigarettes suffisamment cicatrisées pour convaincre quiconque que l'enfant subissait des sévices de longue date, il jugea que l'heure était venue de passer à l'action. La lutte s'annonçait âpre entre ses deux parents. Aux nombreuses accusations d'adultère proférées par mère, s'opposaient les preuves savamment truquées par père des malversations prétendument commises par une épouse cupide. C'est le moment que choisit Madame Ripley pour aller trouver Orental et lui expliquer qu'elle entretenait avec l'enfant une relation suffisamment fusionnelle pour qu'il appelle Tante Edna. Père se montra encore plus intéressé d'apprendre que le petit garçon était terrorisé à l'idée d'être confié à sa mère. Elle lui révéla le terrible secret que lui avait avoué l'enfant. Depuis que mère avait découvert les infidélités d'Orental 2 ans plus tôt, elle punissait le fils au nom des crimes du père, en le menaçant du pire s'il se confiait à quelqu'un. Père demanda à son médecin personnel d'examiner Wainwright, fit photographier les cicatrices et veilla à ce que le juge entende le petit garçon en présence des défenseurs respectifs de ses parents. Renwright avait passé des heures dans sa chambre à répéter son témoignage, soignant son texte. Il évita d'en rajouter en présence du magistrat, expliquant d'une voix douce que s'il craignait sa mère, il l'aimait profondément, sans vraiment comprendre pour quelle raison elle ne lui rendait pas cet amour. Loin de laisser éclater son ressentiment, il donna le spectacle d'un enfant matraqué par l'existence. Lorsqu'il pleurait, il le faisait doucement, tête baissée et épaules repliées, les mains enfouies dans les poches de son pantalon, tirant ses larmes de piqûres d'épingles qu'il s'infligeait à la cuisse. Même l'avocate de sa mère pleurait. Il n'aimait nullement sa mère, pas plus qu'il ne la craignait. Il redoutait uniquement de devoir quitter l'immense demeure paternelle avec son parc de 8 hectares pour vivre dans une maison nettement moins grande au jardin ridiculement petit. Son père était milliardaire, alors que sa mère ne pesait que 50 millions, et cela augurait mal de l'avenir si père, amer d'avoir perdu sa garde, décidait un jour de réduire l'héritage de son fils. À 10 ans, Renwright possédait déjà une vision aiguë des réalités financières et des plaisirs que pouvait procurer la fortune. En échange du renoncement à la garde de son fils, mère finit par accepter un accord plus généreux que celui auquel elle aurait pu prétendre autrement. Dans la foulée, père doubla les émoluments de Madame Ripley, que Wainwright appela tante Edna jusqu'à sa mort. Il lui versa à sa majorité les 100 000 $ promis, et elle mourut paisiblement à 61 ans dans sa jolie maisonnette. Wainwright pleura à ses obsèques, sans avoir besoin de recourir à une épingle, pour avoir appris avec le temps à gouverner ses émotions à loisir. Dans son refuge sous le pont, Hollister commence à s'inquiéter de ne pas voir les Rayshaws se précipiter à sa rescousse. Il se reproche en son fort intérieur de manifester tant d'impatience. La tempête de neige fait rage. Il est normal que ces hommes aient du mal à le rejoindre. En outre, le GPS cousu dans sa combinaison ne peut que le rassurer. Le petit espace dans lequel il s'est réfugié le protège du vent, mais pas de l'obscurité, et il ne voit même pas ses mains, sinon lorsqu'il les approche de son visage. Hollister n'est pas nyctophobe, l'obscurité ne l'a jamais effrayé. Contrairement à son père, ce n'est pas un faible. Un individu qui a brûlé son pénis à l'aide d'une cigarette quand il avait 10 ans ne craint rien. Il n'en ressent pas moins un malaise, porté par l'intuition d'avoir mal calculé son coup. Se laisser voler la motoneige par Buckle est sa première erreur depuis très longtemps, et il n'entend pas en commettre une seconde. Hollister n'est pas homme à se tromper de façon récurrente. Il est incapable dans un premier temps d'expliquer son appréhension, jusqu'à ce que son instinct lui souffle qu'il n'est pas seul sous ce pont. Il partage ce refuge avec... Avec quoi, au juste? Au terme de plusieurs décennies d'absence, des loups commencent à réinvestir la région, mais ils voient mal un loup chercher refuge dans un lieu fréquenté par l'homme. Il n'arrive pourtant pas à se débarrasser de la prémonition qui le taraude. Le plus simple est encore d'explorer sa cachette à l'aide de sa lampe électrique. Il s'aperçoit soudain qu'il l'a perdue.